Le 22 septembre au matin, le comte de Kent fut prié de recevoir messire Raymond de l'Abisson, Jean de Mirail, Humbert Esclos, les frères Doat et Barsan de Pin, le notaire Hélier de Malena, tous les 6 jurats de la Réole, ainsi que plusieurs bourgeois qui les accompagnaient. Les jurats présentèrent au lieutenant du roi d'Angleterre de longues doléances et sur un ton qui s'écartait de la soumission et du respect. La ville était sans vivres, sans eau et sans toit. On voyait le fond des citernes, on balayait le sol des greniers. Et la population n'en pouvait plus de cette pluie de boulets, de quart d'heure en quart d'heure, depuis plus de 3 semaines. L'Hôtel-Dieu regorgeait de malades et de blessés. On entassait dans les cryptes des églises les corps des gens tués dans les rues, des enfants écrasés dans leurs lits. Les cloches de l'église Saint-Pierre s'étaient effondrées dans un vacarme de fin du monde, ce qui prouvait bien que Dieu ne protégeait pas la cause anglaise. En outre, il devenait urgent de vendanger, au moins dans les vignobles que les Français n'avaient pas ravagés, et l'on n'allait pas laisser pourrir sur cep la récolte. La population, encouragée par les propriétaires et négociants, s'apprêtait à se soulever et à se battre avec les soldats du Sénéchal, si de besoin, pour obtenir la reddition. Tandis que les jurats parlaient, un boulet siffla dans l'air et l'on entendit un écroulement de charpente. Le lévrier du comte de Kent se mit à hurler. Son maître le fit taire d'un mouvement de lassitude excédée. Depuis plusieurs jours déjà, Edmond de Kent savait qu'il aurait à se rendre. Il s'obstinait à la résistance sans aucun motif raisonnable. Ses maigres troupes, déprimées par le siège, étaient hors d'état de soutenir un assaut. Tenter une nouvelle sortie contre un adversaire maintenant solidement retranché n'était qu'une folie. Et voici que les habitants de la Réole menaçaient de se révolter. Kent se tourna vers le sénéchal Basset. « Les renforts de Bordeaux, messire Ralph, y croyez-vous encore ? » demanda-t-il. Le sénéchal ne croyait plus à rien. Au bout de ses forces, il n'hésitait pas à accuser le roi Édouard et ses dispensaires d'avoir laissé les défenseurs de la Réole dans un abandon qui ressemblait assez à une trahison. Les sires de Bergerac, de Budos et de Montpezat ne montraient pas de plus joyeuses mines. Personne ne se souciait de mourir pour un roi qui témoignait si peu de soin à ses meilleurs serviteurs. La fidélité était par trop mal payée. « Avez-vous une bannière blanche, messire Sénéchal ?» dit le comte de Kent. « Alors faites-la hisser au sommet du château. » Quelques minutes plus tard, les bombardes se turent, et sur le camp français tomba ce grand silence surpris qui accueille les événements longtemps espérés. Des parlementaires sortirent de la Réole et furent conduits à la tente du maréchal de Trie, lequel leur communiqua les conditions générales de la reddition. La ville serait livrée naturellement, mais également le comte de Kent devrait signer et proclamer la remise de tout le duché entre les mains du lieutenant du roi de France. Il n'y aurait ni pillage ni prisonniers, mais seulement des otages et une indemnité de guerre à fixer. En outre, le comte de Valois priait le comte de Kent à dîner. Un grand festin fut apprêté dans le trèfle de toile brodé des lys de France, où Monseigneur Charles vivait depuis près d'un mois. Le comte de Kent arriva sous ses plus belles armes, mais pâle, et s'efforçant de contenir sous un masque de dignité son humiliation et son désespoir. Il était escorté du sénéchal Basset et de plusieurs seigneurs gascons. Les deux lieutenants royaux, le vainqueur et les vaincus, se parlèrent avec quelque froideur, s'appelant néanmoins « Monseigneur mon neveu, Monseigneur mon oncle », ainsi que gens entre qui la guerre ne rompt point les liens de famille. À table, Monseigneur de Valois fit asseoir le comte de Kent en face de lui. Les chevaliers gascons commencèrent de s'empiffrer comme s'ils n'en avaient point eu l'occasion depuis des semaines. On s'efforçait à la courtoisie et de complimenter l'adversaire sur sa vaillance. Le comte de Kent fut félicité de sa sortie fougueuse qui avait coûté un maréchal aux Français. Kent répondit en marquant beaucoup de considération à son oncle pour ses dispositifs de siège et l'emploi de l'artillerie à feu. « Entendez-vous, messieurs connétables, et vous tous, mes seigneurs, s'écria Valois, ce que déclare mon noble neveu, que sans nos bombardes à boulets, la ville aurait pu tenir 4 mois. Qu'on en garde souvenir. » Par-dessus les plats, les coupes et les brocs, Kent et Mortimer s'observaient. Aussitôt le banquet achevé, les principaux chefs s'enfermèrent pour la rédaction de l'acte de trêve, dont les articles étaient nombreux. Kent, à vrai dire, était prêt à céder sur tout, sauf sur certaines formules qui contestaient la légitimité des pouvoirs du roi d'Angleterre et sur l'inscription des sires Basset et Montpezat en tête de la liste des otages. Car ces derniers, ayant séquestré et pendu des officiers du roi de France, leur sort n'eût été que trop certain. Or, Valois exigeait qu'on lui remît le sénéchal et le responsable de la révolte de Saint-Sardos. Lord Mortimer participait aux négociations. Il suggéra d'avoir un entretien particulier avec le comte de Kent. Le connétable gaucher s'y déclara opposé. On ne laissait pas discuter d'une trêve par un transfuge du camp adverse. Mais Robert d'Artois et Charles de Valois faisaient confiance à Mortimer. Les deux Anglais s'isolèrent donc dans un coin du trèfle. « Avez-vous grande inclination, my lord, à vous en retourner si tôt en Angleterre ?» demanda Mortimer. Kent ne répondit pas.